Page 8 et 9, dans la rubrique France, combat social. Un premier article de Johanna Claire, militante de Solidarité et Progrès, en page 8, intitulé « Les chantiers de la rentrée », avec en sous-titre « Numérique, santé, éducation, addiction, voici nos propositions et des pistes de solutions pour faire face à l'urgence ». Et un sous-titre, un premier pas vers la souveraineté numérique. Les renseignements français pourront-ils bientôt se passer des services de l'entreprise controversée Palantir? 2015, de nombreux attentats meurtrissent notre pays. Charlie Hebdo, Hypercacher, Bataclan. La prise de conscience est brutale. La France doit urgemment se mettre au niveau face aux menaces terroristes. La responsabilité de la politique étrangère menée par François Hollande vis-à-vis de la Syrie ne sera pas évoquée ici. Voir à ce propos ce que publiait Solidarité et Progrès à l'époque sur son site. C'est ainsi qu'est signé le premier contrat entre la DGSI, le service de renseignement intérieur français, et Palantir, société américaine cofondée en 2003 par Alex Karp et le milliardaire pro-Trump Peter Thiel, avec le soutien financier de la CIA. Premier chapitre, dans l'empire du Big Data. Le problème auquel sont confrontés les renseignements français est simple. Dans notre société ultra connectée, une quantité infinie de données peut être collectée sur chaque individu. Mais comment les analyser ensuite? Comment les faire parler, entre guillemets, pour tirer les informations pertinentes? Ici, celles qui permettront de repérer, profiler les potentiels terroristes et anticiper leurs actes. En 2016, la DGSI a justifié son choix de recourir au service de Palantir par le fait qu'il n'existait aucun logiciel français ou européen permettant de le faire. Concrètement, cela signifie que les données ultra-sensibles recueillies par nos services de renseignement sont quotidiennement analysées par un logiciel américain. Même si son actuel patron se veut rassurant et affirme que l'entreprise a changé, Palantir a été impliqué, entre autres, dans le scandale Cambridge Analytica. De plus, quand bien même les règles du contrat garantiraient l'inviolabilité des données, les révélations d'Edward Snowden sur les pratiques des services de renseignement américains ont montré à la planète entière ce que valaient ces règles à leurs yeux. Voilà pourquoi en France, les protestations furent telles que le gouvernement, l'armée, les services de renseignement et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, se sont engagés à financer l'émergence d'un acteur français capable de remplacer Palantir. Nouveau chapitre, nos atouts. En 2017, la Direction générale de l'armement a ainsi lancé avec l'ANSSI, le projet Artemis à destination du ministère des Armées. Parallèlement, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aérospatiale a créé le, je cite, Data Intelligence, réunissant une vingtaine d'entreprises françaises spécialisé dans le traitement des mégadonnées et l'analyse des communications pour le renseignement civil ou militaire. Si en 2019, la DGSI a renouvelé son contrat avec Palantir, car ses solutions alternatives n'étaient pas encore opérationnelles, les projets avancent. En 2021, par exemple, Thales et Atos ont cofondé ATEA pour préparer la phase d'industrialisation du projet Artemis. Dernier chapitre, conclusion. Réseaux sociaux, clouds, monopole des GAFAM, etc. Bien entendu, il reste encore énormément à faire pour bâtir une souveraineté numérique française. Mais l'exemple du « Palantir français » entre guillemets montre que, quand on veut, on peut, y compris dans le secteur du renseignement, domaine stratégique à la fois pour la sécurité de notre pays et pour le respect des libertés publiques. Surtout, il démontre qu'avec de la volonté et des efforts, la France est capable de se dégager de l'emprise technologique anglo-américaine et de créer les conditions pour, à terme, sortir de l'OTAN, à condition qu'elle se mobilise pour regagner l'indépendance qui a fondé son histoire et son identité. Point final. Donc sur cette même page, il y a une petite exergue « En savoir plus sur solidaritéetprogrès.fr », GAFA, Big Data, réseaux sociaux, la contre-révolution. Il y a une photo pour illustrer l'article, un dessin avec un ordinateur montrant l'emblème de Palantir connecté à tout un tas de réseaux intitulés élections, explosions, terrorisme, aéroports, pour montrer le lien entre Palantir et tout un tas de données liées à différents domaines dans le monde. Il y a aussi une petite citation en bas de page, « Ils l'ont dit ». C'est une citation donc de Guillaume Poupard, directeur de l'ANSSI au Sénat. Je cite « Renoncer au traitement des données nous condamne à être des vassaux ». Voilà pour la page 8. Donc en page 9, toujours dans la rubrique France, combat social, un article de Agnès Farkas, la responsable santé de Solidarité et Progrès, intitulé « Penser l'hôpital autrement, le modèle valenciennois ». Avec une introduction, « Malgré un passé glorieux, la France doit aujourd'hui prendre des mesures d'urgence pour sauver l'hôpital public. Et si l'une des clés était de redonner au personnel soignant la liberté nécessaire pour reconstruire un véritable service de santé publique, tout en lui donnant aussi les cordons de la bourse ? Il y a 15 ans, l'économiste Jean Guichetot et les directeurs généraux, Rodolphe Bourré et Philippe Jahan, se sont lancés un défi et ont introduit un nouveau modèle de gestion au centre hospitalier de Valenciennes, le CHV. Et il marche. Premier chapitre, faire confiance aux professionnels de santé. Au sein de l'hôpital public, s'affrontent aujourd'hui deux visions. Celle de la gestion opérationnelle de l'administration, contrôle budgétaire, et celle des besoins des pôles cliniques et médico-techniques en personnel et en équipement de santé. C'est le dilemme qui se pose depuis la transformation de nos hôpitaux publics en entreprises, dirigées par des managers extérieurs, non médecins, devant assurer leur rentabilité, sans rien connaître des contraintes des médecins au quotidien. Si le dialogue entre ces deux groupes semblait impossible, le directeur général du CHV de 2001 à 2017, Philippe Jahan, a initié un modèle de confiance réciproque entre le directeur général de l'hôpital, non médecin, et les divers pôles d'activité hospitaliers dirigés par les médecins. Ce fut le bouleversement total des pouvoirs de décision au sein de l'établissement. Il donna au cadre soignant le rôle de chef de pôle gestionnaire. Auparavant, la moindre commande de médicaments engendrait de la bureaucratie et parfois des semaines de délai. Aujourd'hui, le chef de pôle peut agir en toute autonomie, sous un certain seuil. À partir de 2017, Rodolphe Bourré, devenu directeur général, met l'accent sur trois questions essentielles. Première, la confiance envers les équipes soignantes. Les décisions viennent des acteurs de terrain et sont mises en œuvre par le directeur général. La deuxième, la gestion est déléguée à 90% aux 14 chefs de pôle clinique et de pôle médico-technique. Et en dessous d'une enveloppe de 75 000 euros, les chefs de pôle ont le pouvoir de recruter le personnel médical et non médical selon les besoins de leur service et de faire des investissements techniques de manière autonome. Troisième point, la performance favorisée par cette autonomie relative attise l'esprit d'initiative et la créativité. Nouveau chapitre, une solidarité collective. Cette « nouvelle gouvernance » entre guillemets donne aux chefs de pôle non seulement les moyens d'une mise en œuvre rapide des projets, mais aussi la possibilité d'ouvrir de nouveaux services. Entre parenthèses, chirurgicaux, imagerie médicale, avec un recrutement de personnel de bon niveau et le matériel technique afférent. L'innovation est donc portée par les professionnels de santé, qui acceptent d'autant plus volontiers les responsabilités de gestion de leur pôle. Avec ses 5 500 agents, l'hôpital de Valenciennes est à ce jour le plus gros centre hospitalier général de France. Il enregistre 7 millions d'euros de bénéfices chaque année, réinvestis en totalité notamment dans la plus haute technologie, comme ce robot dernière génération d'un coût de 2 millions d'euros qui permet d'opérer grâce à une vision 3D, 3 dimensions. Voilà ce qui peut attirer les jeunes médecins en quête de travail valorisant. Une solidarité collective est ainsi créée et, de plus, et ce n'est pas négligeable, la qualité des soins s'en trouve augmentée selon Jean Guichetot. Sur la base de cette expérience heureuse, Rodolphe Bourré souhaite désormais un partenariat entre l'hôpital public et le médico-social, l'assistance sociale, autour d'un territoire pour une véritable protection du citoyen, je cite, non seulement dans un cycle de santé, mais aussi dans un cycle de vie. Fin de citation et point final. Donc, sur cette page, en illustration à l'article, on voit une photo avec des médecins, des personnels soignants, donc avec une légende au centre de la photo, Centre hospitalier de Valenciennes, et aussi la couverture du livre « La transformation de l'organisation hospitalière » par Rodolphe Bourré, Jean Guichetot et Philippe Jahan. Donc, l'article étant basé sur la lecture de ce livre aux éditions, donc livre aux éditions Décideux Santé. En exergue, la gestion est déléguée à 90% aux 14 chefs de pôle. Et enfin, tout en bas de page, une petite exergue aussi en savoir plus sur solidaritéetprogrès.fr. Quel nouveau paradigme pour sauver notre système de santé? Pour cela, il faut aller sur notre site. Fin de la page 8 et 9.